Il est 10h10 à Brasilia, c'est l'heure du journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Michael Ponge.
Bonjour Anne, merci. L'armée de l'air brésilienne déployée dans le nord du Brésil pour survoler le territoire des Yanomami, communauté autochtone victime de l'orpaillage illégal. Une crise humanitaire sans précédent, c'est notre dossier du jour. On sera en Haïti aussi bien sûr avec Franz Duval du Nouvelliste. La police attend toujours les blindés achetés au Canada. Lima, Memphis sont aussi au programme. Quant à vous Benoît Ferrand, vous nous parlerez d'une triste première en Martinique.
À 100%, mais ce serait en effet une première, un cas d'intoxication aiguë à l'hydrogène sulfuré dégagé par les algues sargasses.
Rendez-vous dans une quinzaine de minutes, Benoît. Bienvenue à tous. C'était mardi soir sur la chaîne brésilienne Band News. Vous l'entendez, le ministre brésilien de la Défense qui promettait de démanteler l'orpaillage illégal en territoire Yanomami. Ce peuple indigène d'Amazonie qui vit dans le nord du Brésil, victime d'une crise humanitaire sans précédent en raison justement des conséquences de l'exploitation minière illégale, plus 54% en 2022. Cette crise s'est accentuée sous la présidence Bolsonaro. Son successeur, Lula, a donc décidé de s'attaquer au problème en déclarant d'une part l'état d'urgence sanitaire en territoire Yanomami, mais en luttant aussi contre l'orpaillage illégal. Avant une opération d'envergure promise la semaine prochaine, l'armée de l'air vient d'être déployée au-dessus de la zone et il y a urgence à agir face à l'ampleur de la catastrophe. C'est notre dossier du jour, il est signé Sarah Cozzolino.
Ils ont littéralement la peau sur les os, le visage creusé, le ventre gonflé, plein de vers. Des images choquantes d'enfants et adultes indigènes du peuple Yanomami circulent sur les réseaux sociaux depuis la mi-janvier. 570 décès d'enfants ont été recensés ces 4 dernières années. Une équipe de médecins a été dépêchée dans la région en urgence. Douglas Rodriguez est spécialiste en santé indigène.
Les récits sont effroyables. Sur place, les médecins sont choqués de ce qu'ils voient. Des populations entières avec un degré extrêmement élevé de malnutrition, un niveau que l'on ne voyait plus au Brésil. Des infections, des personnes qui meurent à cause de maladies qui devraient être facilement contrôlées avec des mesures sanitaires efficaces.
Le département indigène du système de santé publique manque de moyens, de médicaments, de professionnels. Le paludisme a notamment fait un bond ces dernières années. La situation est grave, selon le médecin.
La situation actuelle des Yanomami est celle d'un peuple agressé, fragilisé, qui risque l'extinction. C'est un processus de longue date, mais qui, ces derniers 4 ans, a atteint une échelle, un degré inimaginable. De mon point de vue, c'est une action délibérée, dans le but d'en finir avec les Yanomami, pour pouvoir exploiter les richesses qui se trouvent sur leur territoire, et notamment la question des minerais.
L'une des principales causes de cette crise humanitaire est l'orpaillage illégal. Les orpailleurs envahissent de façon violente les territoires indigènes. Ils polluent l'eau au mercure pour extraire de l'or et d'autres minerais, coupent les arbres. Les indigènes Yanomami, qui sont des chasseurs-cueilleurs, se retrouvent privés de leurs ressources alimentaires, menacés, contaminés par des maladies contre lesquelles ils n'ont pas de défense immunitaire et parfois obligés de travailler pour les orpailleurs.
Il ne sert à rien de mettre en place uniquement des mesures de santé palliatives hospitalières si on ne retire pas la cause. Et la cause est la situation d'invasion du territoire. C'est ce qui doit être résolu immédiatement. En parallèle, il faut garantir la sécurité des équipes sur place et des Yanomami eux-mêmes. La protection du territoire, à moyen et long terme, il faut restructurer et reconstruire le système de santé qui a été détruit.
ONG et associations en faveur des indigènes dénoncent la situation depuis des années devant les cours pénales nationales et internationales. Elles parlent de génocide de ce peuple. Mauricio Terena est avocat indigène, coordinateur juridique de l'APIB, l'articulation des peuples indigènes du Brésil.
La caractérisation du crime de génocide est l'intention d'éliminer tout ou une partie d'un groupe ethnique ou religieux. Dans cette situation publiquement connue, il y a non-assistance sanitaire au peuple Yanomami, mais aussi des décisions juridiques prises lors du gouvernement Bolsonaro qui signalise clairement l'intention d'exterminer ce peuple.
L'actuel ministre de la Justice, Flavio Dino, a demandé l'ouverture d'une enquête pour déterminer la responsabilité du gouvernement Bolsonaro. Selon l'anthropologue Anna Limulja, la crise actuelle a un impact sur toute l'organisation sociale des indigènes. Elle est l'auteur d'une ethnographie sur l'univers onirique des Yanomami.
Une personne qui a faim n'arrive pas à dormir et par conséquent ne peut pas rêver, sans parler de la peur dans laquelle vivent ces populations. Au début, les relations avec les orpailleurs sont amicales. mal, car ils essaient de gagner la confiance des Yanomami, puis ça devient une relation de peur qui affecte leur vie de manière générale.
La chercheuse souligne que les réponses à la crise devront être prises conjointement avec le Venezuela voisin, où se trouve une partie du peuple Yanomami menacée par les mêmes problématiques. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Et en début de semaine, un juge de la Cour suprême a demandé l'inclusion des membres du gouvernement de l'ex-président Bolsonaro dans cette enquête, donc pour génocide du peuple Yanomami. L'actualité brésilienne, que racontait Gloria Maria, icône de la télévision nationale. Bonjour Margot Retezic.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Gloria Maria avait été la première journaliste du pays à apparaître en direct et en couleur au journal télé national. C'était en 1971 et on apprend ce matin, Margot, son décès.
Son visage était l'un des plus connus du journalisme au Brésil, résume O Globo. Gloria Maria est décédée ce matin d'un cancer du poumon. Elle avait 73 ans. O Globo salue la mémoire de la reporter. Le site se souvient de reportages remarquables, d'interviews inoubliables ou de passeports tamponnés plus de 160 fois au cours de ses nombreux voyages. Et de rappeler que la journaliste a couvert l'investiture de Jimmy Carter à Washington et qu'au Brésil, pendant la période militaire, elle a interviewé des chefs d'État comme l'ancien président João Batista Figueiredo.
RFI, la radio del mundo.
8h16 à Lima, les 5 heures de débat hier au Parlement n'y auront pas suffi.
Votation finale à favor 54, en contre 68.
Par 68 voix contre 54, les députés péruviens se sont prononcés contre l'organisation d'élections anticipées en décembre prochain, comme le demandait la présidente Boluarte. Troisième échec de suite pour la dirigeante, que la rue appelle à démissionner, Margot.
Le Parlement a échoué une nouvelle fois hier à avancer le scrutin dans un contexte de bouleversements sociaux dans le pays, constat du journal Gestión. Avec ces élections anticipées, Dina Boluarte espère calmer la contestation au Pérou. Le Pérou qui traverse depuis bientôt 2 mois une importante crise sociale et politique. En réponse aux revendications de la rue, la dirigeante aimerait procéder à des élections générales en décembre 2023, un scrutin initialement prévu en 2024.
Venons-en, Margot, à cet enterrement en bonne et due forme, celui de l'accord d'Escassou, ce traité de protection de l'environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes. L'oraison funèbre a été prononcée par le Costa Rica. Décision surprenante, Margot, alors que le pays se vante pourtant d'être un exemple en matière d'écologie.
Décision d'autant plus surprenante, Michael, que c'est le Costa Rica, justement, avec le Chili, qui était à l'origine de ce traité. Il a été adopté en 2018. 14 pays latino-américains l'ont ratifié, mais pas le Costa Rica. Le président nouvellement élu, Rodrigo Chavez Robles, a assuré que sous son administration, le pays ne ratifierait pas l'accord d'Escassou. C'est ce qu'indique le journal indépendant Semanario Universidad.
Et le motif de rejet, quel a-t-il été, Margot ?
Eh bien, toujours selon l'hebdomadaire, les députés qui ont voté contre l'accord affirment que de nombreux éléments figurent déjà dans la législation actuelle. Un argument rejeté par les experts. Le Semanario Universidad cite Nicolas Boeg, professeur de droit international public. Selon lui, il n'y a rien dans la loi du pays qui protège les défenseurs de l'environnement. Il s'insurge même dans les colonnes du journal. Nous avons vu comment les intimidations, les menaces, les pressions et parfois même les meurtres se poursuivent au Costa Rica contre les personnes qui s'expriment sur les questions environnementales.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
La capitale haïtienne, où nous attend à présent Franz Duval pour faire le tour de l'actualité du pays comme chaque jeudi. Bonjour Franz.
Bonjour Michael.
Rédacteur en chef du Nouvelliste, en ligne avec nous de Port-au-Prince. Plus de 6 mois après paiement à une société privée canadienne, la police haïtienne attend toujours la livraison de blindés et c'est à la une aujourd'hui du Nouvelliste.
Tout à fait, le Nouvelliste revient sur cette affaire. Les blindés, enfin des véhicules de transport de troupes blindées, en réalité c'est de ça qu'il s'agit, et devait être livré 21 jours au plus tard après paiement. Là, nous sommes en juin 2022. Aujourd'hui, en février 2023, les livraisons ne sont toujours pas complétées. Il y a eu 2 livraisons pour le moment, mais il reste la majorité des équipements à être livrés à Port-au-Prince. Là, on attend encore cette compagnie canadienne qui avait fait des promesses, mais qui jusqu'à présent n'a pas livré les équipements. Et certains des équipements livrés ne sont pas de bonne qualité. La police s'en plaint, la population s'en rend compte. Et malheureusement, la police est dans l'attente et dans l'attente.
Et évidemment, hein, ce n'est pas sans impact sur les capacités de la PNH hein, qui perd pied face aux gangs armés. C'est ce qu'écrit d'ailleurs aujourd'hui le Nouvelliste. On rappelle qu'au moins 14 policiers ont été tués par les gangs depuis le mois de janvier. Alors, livrés ou pas, eh bien, ces équipements ne vont pas radicalement changer la situation de la PNH, la police nationale et du pays. Ça, c'est ce que vous écrivez, vous, Franz, dans votre éditorial aujourd'hui. Alors que la communauté internationale pousse pour des solutions politiques et sécuritaires qui ne tiennent pas la route. Et vous dites, Franz, le constat est désespérant, il n'y a pas de plan B.
Non, il n'y a pas de plan B. Alors, on se rend compte un an plus tard, après une conférence qui avait eu lieu au niveau de l'international, pour doter la PNH en équipement et en formation, on avait monté un basket fund, c'est un fonds commun où plusieurs pays ont contribué pour aider à renforcer la police nationale d'Haïti. Tout comme pour les blindés payés par le gouvernement haïtien qui ne sont jamais arrivés, eh bien, au niveau du basket fund aussi, il ne se passe pas grand-chose. Moins de 12 millions de dollars ont été amassés et pour le moment, on est encore en train d'essayer d'acheter des équipements, mais il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de solution d'intelligence, il n'y a pas de grand apport qui va être fait à la police. C'est plutôt de petites choses comme des constructions de douches, comme des formations, comme des achats d'équipements de patrouille. Pour le moment, vraiment, la police d'Haïti n'a pas les moyens de faire face à la situation d'insécurité et les plans qui sont sur la table ne vont pas donner de solution non plus. Les solutions politiques n'avancent pas et la solution sécuritaire telle qu'elle est connue depuis une année ne donne pas vraiment de résultats.
Ainsi, hier, l'ambassadeur d'Haïti à l'OEA, Léon Charles, a soutenu que la communauté internationale n'avait pas encore pris la mesure de l'urgence haïtienne.
Alors, il faut dire, après des mois d'attente de solutions venant de la communauté internationale, les autorités haïtiennes, celles qui sont en place, il y a une petite musique qui est en train de monter. Là, toutes les autorités haïtiennes se rendent compte que nos amis de la communauté internationale, comme on les appelle en Haïti, ne proposent pas des choses concrètes pour résoudre ni la crise politique, ni la crise sécuritaire. Il faut dire qu'à chaque fois, il y a des conversations, il y a des réunions, il y a des visites, il y a des rencontres, mais ça ne débouche sur absolument rien de concret. Et pour le moment, Haïti s'en rend compte. Et hier, à l'OEA, l'ambassadeur a eu à dire « Merci beaucoup pour les seaux d'eau, mais c'est parce qu'on a besoin. On veut de vrais camions de pompiers avec de vraies capacités pour éteindre l'incendie. » Parce que là, on a dépassé le stade des seaux d'eau et pour mettre fin à la crise sécuritaire qui existe en Haïti.
Crise sécuritaire, crise politique, crise aussi économique, on en a beaucoup parlé déjà ici. Franz, le Nouvelliste aujourd'hui revient aussi sur les 3500 emplois formels qui pourraient être perdus d'ici la fin du mois sur le parc industriel de Caracol, c'est dans le nord d'Haïti.
Alors, pour comprendre l'importance de cette annonce, c'est que les emplois formels dans le secteur de la sous-traitance en Haïti étaient d'à peu près 60 000 avant la crise. Cela s'est réduit, nous sommes passés à peu près 40 000 et de ces 40 000, 3 500 vont disparaître d'ici la fin de février. Et ce sont de rares emplois formels dans un pays où l'informel domine. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont employés dans le secteur privé. L'État haïtien, c'est moins de 100 000 employés. Et quand on perd 3 500 emplois d'un coup en Haïti, c'est un coup très dur pour le secteur ouvrier, mais pour le pays en général.
Et je précise qu'on parle là du secteur du textile, hein, Franz. En direct avec nous, Franz Duval, le rédacteur en chef du Nouvelliste. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. On en parlait hier ensemble. Revenons à présent sur les funérailles célébrées hier à Memphis aux États-Unis de Tyre Nichols, afro-américain de 29 ans, battu à mort début janvier par 5 policiers. Les images de son passage à tabac mortel ont été diffusées en fin de semaine dernière. Elles ont choqué l'Amérique. David Thompson, notre envoyé spécial à Memphis, a assisté hier à la cérémonie.
Il s'avance lentement vers l'église. Freddy et Dolores tenaient absolument à être présents pour les obsèques de Tyre Nichols. Ce couple de retraités afro-américains habitait la même rue que ce voisin souriant de 29 ans, battu à mort par 5 policiers à quelques mètres de chez eux, eux qui ont connu la ségrégation et les violences policières toute leur vie.
J'ai déjà connu ça en 72, dans mon ancien quartier dans le Mississippi, quand un militant noir était assassiné par un policier. Ensuite, j'ai déménagé à Memphis et 50 ans plus tard, je le revis à nouveau. C'est douloureux. Ils violent nos droits à chaque fois qu'ils le peuvent.
Dans cette église Mississippi Boulevard Christian Church de Memphis, le révérend Al Sharpton prononce une oraison funèbre très politique de Tyre Nichols. Si cet homme avait été blanc, il n'aurait pas été tabassé ainsi, lance cette figure de la lutte pour les droits civiques. La vice-présidente des États-Unis est là aussi assise au premier rang à côté de la mère de Terry Nichols. Kamala Harris prend dans ses bras cette maman éplorée, puis elle appelle le Congrès à relancer le George Floyd Act. Cette réforme de la police promise par Joe Biden en 2020, après la mort de l'afro-américain George Floyd sous le genou d'un policier blanc, mais une réforme complètement bloquée au Sénat, faute de majorité suffisante. David Thompson, Memphis, RFI.
Et pendant ce temps au Texas, hier, Wesley Ruiz, un Hispanique de 43 ans, a été exécuté. Il avait été condamné à la peine de mort pour le meurtre d'un policier. C'était en 2007, condamnation malgré des soupçons de préjugés racistes lors de son procès. Enfin, Margot, on termine ensemble par un détour au Canada. Le pays s'engage à accueillir 10 000 réfugiés ouïghours, cette ethnie musulmane qui fuit la persécution en Chine. Vote unanime hier des députés fédéraux pour ce faire.
Oui, tout part de l'idée de Samir Zoubéri, député libéral de la région de Montréal. En juin dernier, il propose une motion appelant le gouvernement à lancer un programme en 2024. Objectif, venir en aide aux Ouïghours et à d'autres musulmans d'origine turque accueillis au Canada. C'est ce que raconte le magazine L'Actualité. Motion adopté. Le quotidien La Presse rapporte que des cris et des applaudissements ont fusé après l'annonce du résultat, suivi d'une ovation d'environ 30 minutes. « Je suis extrêmement reconnaissant et touché », s'est félicité Samir Zoubéri, cité par le journal québécois. « C'est la bonne chose à faire. Nous respectons nos obligations internationales en tant que pays. » Fin de citation.
Margot Ratézic pour La Presse. Merci.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Mickaël.
C'est une première en Martinique, un cas d'intoxication à l'hydrogène sulfuré dégagé par les algues sargasses.
Ce serait une première en tout cas, car on ne sait pas encore tout à fait avec précision si cette femme qui avait travaillé sur un chantier de ramassage des algues brunes n'a été victime que de son contact avec les émanations provenant des algues en décomposition, comme l'explique le toxicologue Dabor Rézière au micro de Cécile Marre.
Depuis 2018, on a bien montré que les gens qui sont exposés aux sargasses en décomposition peuvent présenter dans 90% des céphalées, des maux de tête, des vertiges, des troubles digestifs, douleurs thoraciques, comme c'est le cas de cette patiente. Ce que je veux expliquer aux gens, l'intoxication aiguë, c'est quelqu'un qui était bien dans le cas de cette patiente. Elle était dans le lieu de travail. À un moment donné, elle a fait un malaise. Pour nous, un malaise, c'est quand même une atteinte. Nous, en termes de toxicité, quand on parle de sévérité, c'est quand il y a une défaillance d'organes. Ce qui veut dire un malaise, pour nous, est considéré grave. Nous, ce qu'on dit, c'est une exposition directe à un moment T. La seule chose qu'on n'a pas, on n'a pas pu mesurer, faire une analyse toxicologique pour mesurer dans le sang ou dans les urines les métabolites de l'hydrogène sulfuré. Donc c'est pourquoi on ne peut pas attribuer ce qui s'est passé totalement, scientifiquement, à une intoxication aiguë d'hydrogène sulfuré.
Affaire à suivre, dossier à suivre évidemment. On reste en Martinique avec la délicate question de l'eau, plus précisément de la vétusté des réseaux d'eau. Au menu ce jeudi des conseillers territoriaux à la collectivité territoriale de la Martinique. Je vais y arriver. Pierre-Yves Honoré.
L'exécutif va proposer à l'Assemblée d'attribuer 14 millions d'euros aux trois comités d'agglomération et de communes de l'île. Une enveloppe destinée à les aider à financer les opérations prioritaires. C'est un secret de polichinelle. Le réseau de distribution d'eau en Martinique brille par sa vétusté. Les 4500 km de canalisation ont une cinquantaine d'années en moyenne. Du coup, les fuites se multiplient. Certaines sociétés de fermage font état de 42% de pertes, notamment dans le centre. C'est-à-dire, quand on produit 100 litres d'eau, 40 litres arrivent finalement dans votre robinet. Il faudrait donc remplacer l'ensemble des canalisations en place. Or actuellement, seuls 2% du réseau sont remplacés par les fermiers chaque année. C'est trop peu. Du coup, la CTM a décidé de financer les travaux. Au mois d'août, un comité technique a vu le jour afin de planifier les travaux prioritaires. L'objectif final, c'est de garantir l'accès à l'eau à toutes les populations.
Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand. À demain pour une nouvelle édition, la dernière de la semaine de notre rendez-vous d'IT et des Amériques. Celle du jour était réalisée par Arthur Geoffroy. Passez à tous une bonne journée à l'écoute de nos programmes. Et vous le savez, en attendant, vous pouvez nous réécouter sur RFI.fr et l'application de podcast RFI Pure Radio.